Et bonjour, bienvenue dans l'heure de pointe, l'émission Société de Radio Présence, toujours avec nos chroniqueuses. Bonjour Anne Deloye.
Bonjour David, bonjour à tous.
Bonjour Delphine Pereira.
Et bonjour, bonjour à tout le monde, à nos
Et oui, à
invités,
tout le
on
monde,
est
parce
nombreux
que
aujourd'hui.
exactement, vous êtes journaliste à la Nouvelle République des Pyrénées et la Dépêche du Midi. Et effectivement, nous avons du monde parce qu'aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un événement unique où la foi et la fraternité et le service se rejoignent. Parlons du pèlerinage militaire international, un rassemblement que l'on peut dire exceptionnel, qui a lieu chaque année à Lourdes, qui unit des milliers de militaires venus du monde entier en uniforme, mais surtout en humanité. Pour en parler, nous accueillons le chanoine Jean-Marc Fournier. Bonjour, père.
Bonjour à vous, bonjour mesdames.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président du pèlerinage militaire international et vous êtes accompagné par Eflam Kawissin. Bonjour, Eflam.
Bonjour.
Et vous êtes responsable de la délégation France. Alors, évidemment, 2025, grande année jubilaire. À Lourdes, le sanctuaire ne peut jubiler qu'avec le pèlerinage militaire international. Et alors, le thème, c'est sans surprise, militaire pèlerin de l'espérance.
Tout à fait.
Chanoine Jean-Marc Fournier, l'espérance, c'est toujours d'actualité, on a envie de dire.
Alors c'est toujours d'actualité pour le chrétien, on le sait bien. Les trois vertus théologales sont portées dans notre édifice spirituel dès le baptême, mais plus encore d'un point de vue naturel. Enfin, vous êtes, je parle sous le contrôle des journalistes qui sont ici présents. Tout le monde lit la presse, tout le monde est connecté d'une manière ou d'une autre. On voit combien le monde est quand même porteur d'une extrême violence. Et pour les générations qui sont les nôtres et celles à venir, il y a quand même sujet d'inquiétude dans de nombreux domaines. Et pas simplement l'évocation de l'extrême instabilité de la politique internationale, mais aussi, on le voit bien dans les grands sujets de société, les lois de fin de vie, la préservation précisément ces grands sujets de société qui traversent, eh bien, précisément nos. Je le redis, notre humanité.
C'est vrai qu'on dit toujours qu'on a besoin de paix et à Lourdes, à chaque fois qu'il y a un pèlerinage militaire, on se dit mais il y a vraiment cette année, il faut de la paix. Mais on a l'impression que d'année en année, on vient la demander, la quémander. Ça, c'est vraiment le cœur de la démarche du pèlerinage, que de prier pour la paix.
Alors, permettez-moi de faire le pédant. On va faire un tout petit peu de philosophie. En philosophie, on apprend que tout composé tend naturellement vers sa dissolution, sauf s'il y a un principe supérieur qui maintient les parties ensemble. Et ce qui m'amène à dire que la paix est toujours à conquérir et toujours à maintenir comme un bien précieux. On le voit bien, nous sommes les enfants d'Adam et Ève, qu'on le veuille ou non. Certes, nous avons été rachetés du péché originel, mais subsiste encore en nous eh bien, ce vieil homme qui, tel le phénix, tend à renaître de ses cendres. Alors, au point de vue de la personne, imaginez quand vous passez au niveau de la famille, quand vous passez au niveau de la société, eh bien, et vous avez un facteur de multiplication qui se met en place. Et donc, ça nécessite sans cesse, comme Pénélope, non seulement de remettre l'ouvrage sur le métier, mais de pénétrer plus encore ce mystère, justement, de la paix qui, là encore, deuxième pédantisme, pardonnez-moi, qui le rappelle saint Augustin, n'est rien d'autre que cette fameuse tranquillité de l'ordre. Et donc permettre à chacun de trouver sa place dans la belle construction que nous invite à précisément à mettre en œuvre l'Église. Et avec, on en parlera sûrement, mais l'élection de Léon,
Ouais,
dans la
évidemment.
perspective de Léon XIII, et voilà, on voit bien la vision, ben c'est de ça dont on parle.
Oui, c'est vrai que parce que quand le pape donc apparaît, évidemment, il appelle à prier pour la paix, et même cette phrase de Jésus, que la paix soit avec vous. Et alors, c'est là où le clin d'œil est quand même fort, c'est que le pèlerinage militaire avait invité le cardinal Prévost à venir présider le pèlerinage. Alors, c'est fou, ça. Donc, il n'a pas pu, mais pour des questions de calendrier,
Exactement.
c'est ça, à l'époque. Là, je pense qu'il peut encore moins, possiblement.
Alors on peut avoir une surprise, on n'est pas à l'abri, puisque Lourdes est le lieu de tous les miracles. Nous pouvons prier pour, mais je crois qu'il a un peu autre chose à faire. Mais ce qui fait que cette année, de manière très exceptionnelle, on n'aura pas le message pontifical qui habituellement nous accompagne. Mais on sait très bien qu'il a un vrai souci précisément pour les ordinariats militaires, puisqu'il en était chargé en tant que préfet pour les évêques. Et on sait que sa prière nous est acquise et qu'on aura une place toute spéciale dans son cœur et sa prière.
Ah oui, donc on est vraiment dans l'actualité. Peut-être Anne Deloire a envie de poser une question.
Oui, parce que moi je me demande toujours comment les militaires qui viennent au pèlerinage, donc certains reviennent plusieurs années de suite ou bien s'interrompent un peu et reviennent. Je me demande toujours qu'est-ce qui les motive et comment eux-mêmes se sentent artisans de paix.
Eflamme, si tu veux dire un mot.
Eflamme Kawissa.
Alors, je pense que ce qui marque énormément les différents pèlerins qui viennent au PMI, c'est cette notion de fraternité d'armes et de fraternité d'âme. Et donc, c'est à ce titre, en faisant connaissance avec les autres militaires des autres corps français, mais aussi des autres nations, qu'ils expérimentent cette notion d'artisan de paix. Mmh. Alors, évidemment, chacun vient pour différentes raisons et avec des chemins de foi différents. Mais toujours en ayant en tête cette idée de fraternité entre les peuples.
Justement, comment vous appelez au pèlerinage ? C'est-à-dire, c'est sur la base du volontariat, je suppose. Mais est-ce qu'il y a des quotas à respecter par régiment ? Je parle pour la France uniquement, qui peuvent venir. Je suppose que tout le monde n'est pas libre au même moment. Comment ça se passe ?
Alors, nous sommes dans un pays où, vous savez, la laïcité nous invite à envisager le rapport à la religion comme une neutralité plutôt bienveillante, à vrai dire. C'est-à-dire que personne ne doit être empêché de pratiquer ou de ne pas pratiquer, de croire ou de ne pas croire, quel que soit le système de croyance et de philosophie qui est le sien. Et donc, c'est sur la base du volontariat, sur un positionnement, comment dirais-je, administratif qui est la permission, ou les vacances pour ceux qui ne maîtrisent pas complètement le vocabulaire militaire, sur des vacances, c'est l'occasion pour ces soldats donc de prendre 3 jours ou parfois 4, ils s'organisent comme ils l'entendent, ou moins pour assister au sacrement d'un proche ou d'un ami. Eh bien, de venir ici à Lourdes. Et avec ce point particulier que vous évoquiez, c'est que la mission est toujours première, c'est-à-dire que s'il y a des impératifs opérationnels, effectivement, cela va suspendre pour un temps la permission. Mais ça serait le même cas si vous êtes en vacances chez vous, en train de tondre votre pelouse, on vous rappelle parce que on a besoin de vous. C'est le même principe.
D'accord. Et ce sont souvent des militaires qui se retrouvent régulièrement dans le cadre des aumôneries ou comment ça, en cours d'année. Comment ils se préparent au pèlerinage ou bien comment ils vivent l'après-pèlerinage ? Est-ce qu'ils ont l'occasion de se retrouver en tant que frères d'armes, mais aussi en tant que simplement humains, chrétiens, ayant vécu le pèlerinage ? Est-ce que l'aumônerie des différents corps, je ne sais pas comment vraiment c'est organisé, permet aux militaires qui ont vécu le pèlerinage de continuer à nourrir leur engagement et leur foi après le pèlerinage ?
Alors vous avez posé la question de l'organisation, c'est l'occasion peut-être de faire un petit rappel pour ceux qui nous écoutent. Il faut savoir qu'en France, vous avez un proprié dicté une aumônerie, mais la loi ne reconnaît que des aumôniers, c'est-à-dire que vous le savez que l'État ne finance ni ne reconnaît aucun culte. À l'encontre, elle reconnaît des agents publics qui ont une mission de service public tout à fait particulier, qui est le culte précisément, puisque la Constitution, dans les milieux fermés, doit quand même permettre, et je le redis, c'est un droit constitutionnel, quand même permettre de l'accès à sa religion, à sa foi.
Comme on peut le vivre dans les établissements de santé, dans les centres pénitentiaires.
Dans les prisons, absolument. Oui, dans les écoles aussi, quelques enfants de l'homme. Et donc c'est tout à fait le cas. Ça veut dire que vous avez pour l'ensemble des aumôniers, des quatre cultes, à savoir catholiques, j'aurais dû me citer en dernier, mais nous sommes de fait les plus nombreux, historiquement, hein, c'est bon, catholiques, protestants, israélites et musulmans, vous avez 196 équivalents temps plein. Donc ça veut dire que vous avez à minima 196 aumôniers des différents cultes qui sont au service de leurs coreligionnaires, dans un premier temps, dans l'aspect cultuel, mais pas que. Pourquoi ? Parce que dans les missions de l'aumônier militaire, on a encore 2 déclinaisons. Qu'attendons-nous d'eux ? Dans un deuxième temps, un aide, cette fois-ci une aide, pas spécialement cultuelle, mais mais une aide spirituelle, accordée cette fois-ci à ceux qui s'adressent à eux, quelle que soit leur confession, quels que soient leurs besoins. Donc ça, c'est la deuxième partie, à eux et leur famille. Et le troisième champ d'application de l'exercice de l'aumônier, c'est le soutien au commandement, c'est-à-dire l'aide au commandement donnée sur des questions de société, l'éclairage de sa propre conviction, non pas pour imposer une vision, mais pour aider le chef militaire, quel que soit son niveau, prendre une décision la plus éclairée possible. Et donc tout ça s'organise, parce qu'il faut structurer un peu les choses. On a dit que la paix, c'était la tranquillité de l'ordre, donc ça fonctionne aussi avec une organisation. Tout ça s'organise avec, dans le premier niveau, des aumôniers qui sont dans les quatre armées, répandus dans les quatre armées, des aumôniers des forces. Alors vous en avez dans l'armée de terre, vous en avez dans la gendarmerie, dans la marine, et vous en avez aussi dans l'aviation. Ces gens sont structurés dans les régions militaires. Il y a 6 régions militaires, donc vous avez au-dessus d'eux un aumônier de zone de défense, placé auprès du général qui commande la zone de défense. Ici, nous sommes sur la zone de défense de Marseille, par exemple. Et puis ensuite, vous avez encore au-dessus, vous avez des aumôniers qui sont aumôniers en chef adjoint, à savoir pour chacune des armées. Donc vous avez 4 aumôniers en chef adjoint, pour l'armée de terre, la gendarmerie, je leur dis, vous déclinez. Et tout au sommet, vous avez un aumônier en chef. Et ça, vous déclinez cette démonstration par 4, puisque de fait, il y a 4 cultes qui sont représentés. Et donc, comment ça fonctionne? Eh bien, effectivement, on essaie de mettre au plus près des besoins dans chacune des 4 armées, d'abord des aumôniers des forces. Et après, l'animation se fait, on le voit, par les différents échelons qui sont proposés. Et donc, selon les unités considérées, comprenez bien qu'une aumônerie d'école ou une aumônerie d'hôpital, c'est pas forcément celle d'un régiment parachutiste, oui, ou de troupes de montagne, ou à bord d'un bateau. Mais le principe, c'est quand même de vivre au plus près du soldat l'incarnation du Christ, pour nous les chrétiens, cette incarnation, c'est-à-dire pas simplement un gentil message de paix et d'amour, qui est déjà important, mais de vivre, de rire avec ceux qui rient, de pleurer avec ceux qui pleurent, et puis de cette manière de donner le goût des choses. Hein, souvenez-vous de ce qu'on trouve dans les premières pages quasiment des Actes des Apôtres, c'est « Voyez comme ils s'aiment, c'est à ce signe que vous les reconnaîtrez ». Donc, comment ça fonctionne et comment on attire les jeunes, précisément en étant signe d'amour. Souvenez-vous de cette espèce de turbulence dans laquelle nous sommes, de cette violence quasi perpétuelle à l'extérieur comme à l'intérieur, et aussi dans les cœurs et dans les esprits. Eh bien, le fait d'être un facteur et un diffuseur, hein, sentinelle de la paix, c'était le terme qu'utilisait Saint Jean-Paul II, mais le fait d'être un diffuseur de paix et d'amour, eh bien, assurément, ça attire. Parce que l'amour, ça veut encore dire quelque chose. L'amour caritas, entendons-nous, pas l'amour du chien, du carré de chocolat ou que sais-je, qui a aussi son importance par ailleurs, hein, parfois de trop. Mais non, je parle de la caritas, c'est-à-dire l'oubli de soi pour vouloir le bonheur de l'autre. Et ça, personne ne reste insensible. Et Flamme parlait justement de cette fraternité d'armes. Alors même si c'est de moins en moins le cas, mais on se retrouve, il y a une période où on était quasiment tous des anciens d'Afghanistan, les vétérans. Donc maintenant, oui. Mais on aura cette année, enfin vous allez nous demander des chiffres, je vous en donne déjà quelques-uns, on aura près de 300 blessés. 300 blessés, dont j'en ai encore croisé, là, ça se met en place doucement. Vous avez des jeunes, alors qui sont de moins en moins jeunes maintenant, mais enfin qui gagnent en maturité, on va dire ça comme ça, mais qui ont une jambe en moins, 2 jambes, un bras.
Oui, on pourrait s'arrêter un instant quand même là-dessus, parce que ça, c'est assez édifiant. Ça fait que Lourdes, le charisme de Lourdes, c'est aussi d'accompagner les personnes qui sont en besoin et nécessité d'être accompagnées. 300 blessés, donc est-ce que ces 300 blessés de guerre récents, anciens, et ils sont accompagnés aussi par une hospitalité que comment, où sont soignés ces blessés, comment sont-ils amenés, est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors je vais laisser pour l'hospitalité la France parler, en sachant que ça fonctionne à peu près de la même manière pour chacune des délégations étrangères.
Oui, en fait, donc il y a cette hospitalité qui s'appelle l'hospitalité Notre-Dame des Armées, qui épaule principalement au moment du PMI, mais aussi lors de visites dans les différentes unités, des blessés et des malades de nos différentes armées. Donc il y a cette volonté de fraternité qu'il y a aussi dans les autres hospitalités diocésaines. Et là, à l'heure actuelle, on a vraiment beaucoup d'hospitaliers, un petit peu moins de blessés français, mais plus que les autres années encore. Quoi. Voilà.
Oui, les hospitaliers, ce sont des anciens militaires ou des bénévoles comme, ou des familles comme...
Alors, principalement des anciens militaires ou des familles, mais vous avez aussi des civils qui sont sensibles parce qu'ils avaient quelqu'un dans leur famille à une époque qui était militaire. Voilà, donc ils sont des soutiens de l'aumônerie et épaules au moment du pèlerinage militaire dans cette grande activité au service des plus fragiles. Quoi.
Alors, pardonnez-moi, et pour compléter peut-être ce qui vient d'être dit, je tiens à saluer tout à fait le rôle exceptionnel de notre service de santé des armées, qui n'hésite pas à s'engager non seulement au plus près de la bataille quand les troupes françaises sont engagées, mais qui ont un soutien extraordinaire en expertise, en générosité, en dévouement. Et vous avez un certain nombre de HIA, donc les hôpitaux d'instruction des armées, qui seront présents. Alors on peut citer Lavran, on peut citer Percy, qui déploient à cette occasion. Pareil, sur la base du volontariat pour la plupart, hein, donc ils prennent sur leurs vacances pour faire partager de leur expérience et de leur expertise et vivre avec ces malades pour continuer à faire la toilette, à leur prodiguer des soins. Et ça, vous avez des médecins, des infirmières, des infirmiers, voilà. Donc je tenais à vraiment, non seulement les en remercier, mais puisqu'on est ici à Lourdes, à inviter nos auditeurs à prier pour eux et pour vraiment qu'ils continuent à conserver cette belle âme qui est la leur.
Et puis évidemment, continuer aussi à renforcer les rangs quand il y a des besoins. Donc, Delphine Perrin, vous avez une question.
Et justement, ces blessés, ces malades, ils sont parfaitement intégrés au pèlerinage. Il y a même des activités pour eux. Je vois sur le programme, il y a des challenges qui opposent les blessés et les valides. C'est important, ça aussi, de pouvoir mettre tout le monde en même temps dans des activités autres que des
célébrations.
C'est des célébrations différentes qui émaillent ce pèlerinage.
Alors,
qui
vas-y, je me lance et puis après tu... Merci.
Allez-y.
Jean-Marc
Fournier.
Le pèlerinage est pensé un peu sur le modèle de la théologie du corps de Saint Jean-Paul II. Hein. Vous êtes sûrement plus au fait que moi de ce sujet. Il faut penser le pèlerinage comme un cœur et deux poumons. Le cœur, c'est la paix. On ne cesse de parler de la paix. Et vous voyez qu'année après année, nos thématiques sont comment on va pouvoir introduire la paix sans parler de la paix, mais en parlant de la paix et en arrivant à la paix, en partant de la paix, en arrivant à la paix. Bon, et l'année prochaine, j'imagine que si vous nous réinvitez, on sera toujours en train de parler de la paix et on aura bien raison. C'est-à-dire que c'est toujours un devenir en réalisation. Mais ce moteur, ce cœur, si vous voulez, il a deux poumons, et on sait combien on a besoin de deux poumons pour respirer. Vous avez les valides et les blessés. Et on peut certes fonctionner sur un seul poumon, mais ça marche nettement moins bien, on a besoin de ces deux poumons. Et donc c'est l'unité du corps, si vous voulez, et par les différents ressorts qui ont été évoqués, à savoir la fraternité d'âme, ce qu'on a vécu ensemble, il n'y a absolument aucune dichotomie qui se crée, parce que les blessures, c'est pas simplement les blessures physiques, mais c'est de plus en plus, vous le savez, les blessures psychologiques, ce qu'on appelle en anglo-saxon les PTSD, et toutes ces choses-là. Donc qui, dans le phénomène de... Alors je ne suis pas du tout un expert, mais enfin, comment dirais-je, parfois un amateur éclairé, qui ont besoin dans leur reconstruction justement d'eux-mêmes d'avoir des projets, d'avoir des défis et justement de travailler cette réincorporation, et j'utilise le terme à dessein, réincorporation, refaire partir du corps, eh bien cette réincorporation du corps social et donc le fait de vivre ensemble une aventure forte où ils sont non seulement partie prenante, mais ils deviennent, pour le change des blessés, facteurs de réussite, ce qui leur était interdit. C'est grâce à eux que leur équipe va gagner, c'est pas les valides. Les valides sans leurs blessés ne peuvent pas gagner, puisque un certain nombre d'épreuves, c'est le blessé qui va agir et qui va permettre de gagner. Enfin, c'est un peu l'école des fans, tout le monde gagne quelque chose, mais précisément parce que c'est important.
Et Flamme Kawissin, concrètement, on parle d'épreuves, mais en même temps, on est à Lourdes, on n'a pas encore accueilli les Olympiades, mais comment ça se passe?
Alors, vous avez une série d'épreuves, une dizaine d'épreuves, dont, par exemple, déjà les pompes, hein, ça c'est connu dans le milieu militaire. Mais vous avez aussi de la boccia, donc la sorte de pétanque pour vraiment les personnes en difficulté avec un handicap. Vous avez du tir à la sarbacane, du tir laser, Vous avez de la force celtique, un lancer de menhir. Alors, c'est un petit menhir. Hein. Vous avez de la force basque, etc. Et voilà. Et à côté de ça, il y a la course. Donc, l'idée, c'est de se dépasser pleinement avec le blessé, comme disait le père tout à l'heure. Et finalement, les valides sont les pieds et les mains du blessé. Et l'idée, c'est vraiment d'être à sa place. Voilà, les membres manquants qui font un tout. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette année, on a un partenariat avec l'association Les Gueules Cassées qui participe pleinement à la reconstruction aussi des blessés. Et donc, ils offrent un trophée qui arrivera très probablement en parachute.
On a du scoop.
Voilà. Sur la prairie, du sanctuaire.
Si le temps le permet. Mais donc, l'idée est de travailler aussi en commun avec les autres associations qui contribuent à tout ça pour le bien de nos militaires blessés et valides.
Alors, ce sont des jeux, on va dire, par équipe. Et les équipes se connaissent déjà, se sont entraînées, valides et handicapées. Comment ça se passe, ça aussi, la préparation de ce challenge?
Pour certains, oui. Mais pour d'autres, pas du tout. Certains découvrent le blessé qui leur sont affectés sur place. Et donc, ça permet d'avoir des belles preuves d'amitié, même parfois international, puisque des Français peuvent très bien avoir à prendre en charge un blessé italien, américain, etc. Et donc, ça permet d'avoir une belle fraternité d'armes. Et d'autres viennent avec des blessés de leur propre régiment. Et donc, là aussi, il y a vraiment un esprit de corps, puisque, comme vous le savez, si un membre du corps est malade, c'est la totalité du corps qui prend. Et donc, vous avez vraiment cette idée de corps dans le plus beau sens.
Et en même temps, un corps international, parce que là, on parle donc de la France, mais le pèlerinage militaire international, oui, c'est 19 délégations.
Alors, c'est plus que ça. Plus 19, que ça. 19, c'est les membres de la CIP, la Conférence internationale préparatoire. Donc, il y a 19 membres qui ont été élus, qui ont été choisis, grande nation, petite nation, dont la mission, si vous voulez, c'est comme un conseil d'administration. Tous les ans, on se réunit au mois d'octobre. On fait le rétex, le retour d'expérience du pèlerinage passé. On valide le rapport moral, le rapport financier, et on prépare le pèlerinage à venir. Cette année, c'était en France. Donc, pour préparer ce 65e pèlerinage, on était en France. Mais l'année prochaine, nous serons en Pologne. Et l'année d'après, encore, on verra où Dieu nous mène. Donc, c'est le rôle de ces 19 qui représentent leur père. Mais généralement, vous savez, le pèlerinage, c'est autour de, à chaque fois, on donne une quarantaine de pays. Pour nous, une délégation, c'est 12 membres. Mais est-ce que... Oui, mais père, s'il n'y en a que 10, qu'est-ce qu'on fait? Ou s'il n'y en a que 8, est-ce que c'est une délégation? Pendant le Covid, souvenez-vous, on avait fait un web PMI. On avait remplacé l'ensemble des délégations, puisque les conditions étaient terribles, uniquement par les attachés de défense. Donc chaque pays avait envoyé son attaché de défense. Donc on aura un certain nombre d'attachés de défense. Donc partons sur une quarantaine de pays. Qui vont se répartir après sur et les augmentations sont spectaculaires. Alors, j'ai quelques chiffres sous les yeux parce que j'ai pas de mémoire, donc et puis mes yeux sont faiblissants, mais là j'arrive encore à lire.
Parce que donc, ce sont de grands chiffres.
Voilà. Ce sont des chiffres honorables. Vous voyez simplement en termes de perspective, entre le 63e et le 64e PMI, donc je parle de l'année dernière, on avait une augmentation déjà de 47,2%.
Ben oui, ça c'est énorme.
Et donc on était à peu près dans les 15 000, 16 000 participants. Et cette année, rien que pour la France, on en parlera, l'année dernière il y avait 5 000 Français. Bon, cette année, 7 200 inscrits avant de venir. Est-ce que en ça, sachant vous, qu'on vous... en a toujours qui s'inscrivent en arrivée sur place.
Est-ce que vous l'expliquez dans ce phénomène qui se vit en France avec ce bon aussi des catéchumènes adultes? Parce que quand on regarde, on a parlé du rôle de l'aumônier, on a parlé rapidement des sacrements, mais quand on lit 179 baptêmes, 378 confirmations qui vont être données pendant le pèlerinage, est-ce que vous vivez au sein du diocèse aux armées le même élan qu'on peut vivre au national au niveau du catéchuménat adulte?
Là, vos chiffres sont dépassés pour cette année. On sera à 200 baptêmes, vous voyez.
Vous à 200 baptêmes, alors 200 le temps... Mais attendez, mais c'est fou, le temps qu'on imprime les papiers, il y a déjà des baptisés qui se présentent à la porte.
Et 200 baptêmes, mais, et on a volontairement limité. Donc, il y aura 200 baptêmes. Et les confirmations, si vous prenez donc, le cycle normal de l'initiation chrétienne, vous rajoutez les confirmations qui seront par-dessus. Donc, vos 200 baptisés plus les confirmations plus 300, on arrivera à 500 confirmations. Vous voyez, et ça, c'est uniquement ce qui se passe à Lourdes. Il faut savoir que il y a le travail, et je reprends la question qui a été posée, le travail de toute une année en aumônerie, c'est pas simplement, c'est aussi le pèlerinage unitaire international, mais c'est tout ce qui peut se vivre par ailleurs, les pèlerinages locaux, c'est les soutiens, c'est l'apport et la vie cultuelle de l'aumônerie. Vous avez dans les zones de défense un certain nombre de sacrements qui sont donnés, de l'initiation chrétienne. Je ne parle pas simplement des mariages et des sépultures quelquefois qu'on peut faire, mais je prends le simple exemple de l'endroit où je suis recteur, à savoir l'école militaire. L'école militaire, alors qu'on en a, on en a beaucoup qui viennent à Lourdes, mais pas tous, parce qu'on l'a dû. Puis, d'abord, il n'y a pas assez de place, et puis on a vu que les contingences opérationnelles parfois limitaient la présence. Moi, pour la nuit de Pâques, on essaie de... Bon, la nuit de Pâques, j'ai eu 5 baptêmes et 14 confirmations, simplement chez moi. Vous multipliez ça par le nombre d'aumôniers et ça vous donne des chiffres qui sont encore beaucoup plus...
Est-ce que vous savez l'expliquer, ce phénomène? Est-ce qu'on a là un retour... Alors, on sait qu'il y a quand même une certaine ferveur, une certaine fidélité à la foi, quand même, dans le monde militaire. C'est vrai, ce sont des hommes d'engagement, évidemment. Mais ce phénomène de nouveau, vous savez l'expliquer? Vous en réjouir,
qui peut mesurer la profondeur, la hauteur, la largeur et la longueur de la miséricorde du cœur de Christ? C'est pas une réponse. Vous savez, j'aime beaucoup être avec les rabbins parce que les rabbins, ils répondent jamais aux questions, ils vous racontent une histoire. Bah, vous voyez, je fais ça. Bonjour, monsieur le rabbin, est-il vrai qu'un rabbin à qui on pose une question répond toujours pas à une question? Ah bon, qui vous a dit ça? Bah, c'est un peu ça, si vous voulez, c'est que la question est complètement pertinente. Ne croyez pas que je sois en train de dénigrer le propos. Mais on est complètement dans le mystère du cœur de Dieu. Ce qui est certain, c'est qu'on a une attaque tout azimut des valeurs dites traditionnelles. Est-ce qu'on peut parler de judéo-chrétien ou pas? Enfin, le sujet n'est pas là, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ceux qui fondaient la famille, le respect de la vie, les valeurs un peu traditionnelles, tout ça, quand même très très ébranlé par un certain nombre de courants sociétaux. Je ne parle pas de leur légitimité, je dis simplement que c'est une réalité à laquelle on doit faire face, et nous, chrétiens, nous, catholiques, nous avons aussi des choses à dire. Et vous savez, le militaire, c'est aussi quelqu'un qui se promène dans les bois avec sa boussole, qui fait, voilà, qui fait, bon. Quand vous êtes perdu, ça arrive, hein, tout le monde n'est pas forcément bon en topographie. Et bon, et je sais que le GPS a sauvé de nombreux couples dans les voitures. Bon, tout le monde n'est pas forcément bon en topographie. Quand vous êtes perdu, eh ben, l'acte réflexe élémentaire, c'est de revenir à un point que vous connaissez déjà. Or, on sait à peu près ce que ça donne un pays de chrétienté, quoi. Bon, on sait à peu près comment ça fonctionne. Le reste, c'est à découvrir.
15 000 militaires, plus de 15 000 alors, plus de 15 000 militaires qui viennent de 40 pays, vous l'avez dit, c'est une marée qui arrive dans Lourdes, et quelque part avec aussi des processions, mais également des parades, parce que c'est également un moment populaire. C'était un pèlerinage que vous attendez, j'imagine, toute l'année. Comment vivez-vous, vous, ce moment de pèlerinage? Évidemment, c'est un rush professionnel, quelque part, parce qu'il faut organiser tout ça. Mais c'est un moment que vous attendez, Eflam Kawissa?
Alors, moi, à titre personnel, avec mon équipe d'organisation, effectivement, c'est toute l'année. Donc, puisqu'on prépare ça dès la fin du pèlerinage, on prépare déjà le suivant. Donc à la fois l'équipe France et l'équipe internationale, où on travaille main dans la main pour pouvoir présenter une belle activité l'année suivante. Donc c'est toute l'année et c'est une passion qui est très prenante, mais c'est une passion. Et pour chacun des membres de l'équipe, à côté de ça, vous avez les aumôniers militaires qui, eux, certains finalement voient dans le pèlerinage militaire... un point d'orgue de leur année pastorale, et d'autres, c'est un début puisque certains se découvrent le Christ en venant à Lourdes, voilà, au pied de la Vierge Marie. Donc ça peut être un début ou une fin en soi, mais chaque aumônier militaire finalement a sa vie pastorale rythmée par le pèlerinage militaire, notamment à partir du mois de janvier où les inscriptions commencent, et là jusqu'au mois de mai.
Et ça n'en finit plus. Père Jean-Marc Fournier, c'est un peu le rendez-vous de famille là, pour le diocèse aux armées.
Alors, je vais vous dire, c'est une réunion de famille pour l'ensemble des pays concernés. Là, je vois depuis hier, on a reçu à peu près une quinzaine de délégations. Là, on en a reçu une quinzaine supplémentaire. On se connaît tous, on s'appelle par son prénom, on s'embrasse. Et absolument, absolument. Et on se donne des nouvelles. Et pour être issu des troupes de marine, on a une petite connaissance de l'Afrique et donc et des rites qui vont avec. Mais on se donne toujours des nouvelles de la famille. Ça commence toujours comme ça, avant de parler d'autres choses, de choses sérieuses. Parce que la famille, c'est sérieux. Et c'est une famille, oui, je suis complètement d'accord avec vous. Et donc, on est très heureux qu'il y ait cet événement pour nous retrouver avec notre maman commune, hein, la Sainte Vierge, et puis le bon Dieu dans les célébrations, c'est une chose entendue. Mais oui, tout à fait. Ouais.
Avant que Delphine Perrin pose une question, ça lève la main depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une fidélité au pèlerinage militaire international? Parce que c'est vraiment, il y a énormément de jeunes, voilà, et ça c'est très marquant. Est-ce qu'on y vient et est-ce qu'on y revient, en fait, au pèlerinage?
Bien sûr.
Pourquoi?
Tout à fait. Eh bien, parce que... beaucoup pourraient mettre des mots en disant voilà, parce qu'on retrouve les camarades, parce que moi je vois par exemple pour nos compatriotes qui sont dans les DOM et les TOM, les ultramarins, dispatchés un peu partout, c'est l'occasion de se retrouver, ils ont peu l'occasion de se retrouver, donc entre cousins, les réponses peuvent être multiples, mais ultimement parce que, et c'est là la deuxième partie de la réponse, c'est de l'ordre de l'indicible, quoi. On sait qu'il se passe quelque chose, mais on est bien en peine de mettre des mots dessus, mais on sait qu'on a vécu quelque chose de fort, et donc on a de nouveau envie de le revivre.
C'est un pèlerinage qui a un aspect particulier, c'est qu'il se passe à l'intérieur des sanctuaires, avec tout ce qui est célébration, conférence, tout un programme qu'on va peut-être détailler, mais aussi avec ces fameuses musiques militaires, ces fanfares qui sont à l'extérieur de la ville et que les gens apprécient beaucoup.
Ça, c'est une volonté de sortir du sanctuaire et d'aller en ville.
Oui, en France, ça a un nom, c'est ce qu'on appelle le lien armée-nation. L'armée, c'est uniquement le prolongement de la nation. L'armée est constituée des fils et filles de la nation et l'expression au service de politique. Donc on peut absolument pas opérer de dichotomie entre les deux. Et si jamais ça se produit, c'est vraisemblablement le début de d'autres choses. Donc il faut veiller à ce que ça puisse exister. Et du reste, vous avez peut-être suivi l'actualité. À Paris, le gouverneur militaire de Paris a réautorisé les militaires et a encouragé les militaires à de nouveau sortir en tenue pour montrer justement que cette visibilité doit bien exister, que l'armée c'est la nation et la nation c'est l'armée et que le lien doit subsister. Et pourquoi pas par des choses aussi légères et importantes que la musique.
Tout à fait.
Une dernière question, Anne Deloy.
Oui, c'est pas une dernière question, c'est une remarque. Je me souviens, il y a quelques années,
c'est une dernière question.
J'avais été très étonnée justement de voir, alors à la fois dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, tous ces drapeaux pour tous les pays représentés. Puis j'avais été très étonnée de les voir aussi sur la place de Lourdes, en pleine ville. Et je ne me souvenais pas, en fait, que les pèlerinages qui viennent, même s'ils ont cette dimension internationale, étaient aussi présents en ville. Et on m'avait justement expliqué ce lien armée-nation, que je trouve vraiment très important.
Et là, vous êtes en train de parler de cette cérémonie qui se produisait au Monument aux Morts,
oui.
Justement, qui n'était pas simple, qui était la nation, mais la nation dans son prolongement, dans son récit. C'est-à-dire ceux qui étaient déjà morts au profit de la France et les générations à venir. Donc ça, c'est très, très vrai. Et souvenez-vous aussi, pour les plus anciens Lourdais parmi nous, mais il n'y en a pas, la procession mariale, qui a un succès considérable, commençait de l'intérieur de Lourdes. Et on descendait, on processionnait dans les rues de Lourdes. C'est les attentats de 2015 qui ont mis un peu fin à cette affaire, et puis aussi le fait que, paraît-il, c'était un peu bruyant, semble-t-il, mais ça, tout le monde voit un peu midi à sa porte, mais enfin, en tout cas, on processionnait de l'intérieur de Lourdes, et on descendait jusqu'à l'intérieur des sanctuaires. Et à partir de 2015, ça s'est fait uniquement à l'intérieur de, et ça continue d'être uniquement à l'intérieur des sanctuaires. Je lance un message à la mairie de Lourdes.
Je sais qu'ils nous écoutent.
C'est assurément dans les projets de l'international de pouvoir retrouver justement plus encore cette visibilité extérieure.
Et c'est certainement dans le cœur de tous les Lourdais, de tous les habitants en tout cas de notre cher Sud-Ouest, Béarn et Gers, que voilà de venir voir les militaires, parce que ça, c'est un pèlerinage qu'on aime venir voir. Le programme, parce que nous sommes en plein dans le pèlerinage, se poursuit. Delphine Perret en a parlé, samedi après-midi, donc ce Festival international de musique militaire. On a parlé du challenge sportif, qui est au même moment sur la prairie du sanctuaire, et voilà, de très belles célébrations, et cette belle procession mariale, même si elle n'est qu'à l'intérieur du sanctuaire, en tout cas, elle est belle et marquante. On s'était dit l'année dernière, vous reviendrez pour nous en parler et nous donner des nouvelles à nouveau. Vous l'avez fait, donc officiellement, on vous réinvite pour l'année prochaine. Il y aura bien un 66e pèlerinage militaire international.
Sûrement. Alors, est-ce que ce sera nous ou d'autres ? Peu importe, mais en tout cas, on prend l'engagement que, effectivement, nos successeurs, ou nous-mêmes, si on se succède à soi-même, ben, nous puissions répondre à votre invitation.
C'est ça, l'engagement, le service. C'est bien ça, l'esprit de ce pèlerinage. Nous, on se retrouve la prochaine fois. Vous serez là ?
Oui, on sera là.
On n'attend pas un an quand même pour faire une émission.
Dans quelques semaines.
Alors, on se retrouve très bientôt. Merci à tous et à bientôt.
Merci
à vous.